Stéphane Gompertz, bonjour.
Bonjour.
Vous dites qu'aujourd'hui les ambassadeurs sont des hommes de terrain, mais est-ce que beaucoup ne restent pas encore confinés dans les palais, dans les bureaux climatisés ?
S'il y en a, c'est sans doute une minorité. Je crois que la plupart de mes collègues maintenant, ambassadeurs ou diplomates en général, sortent de chez eux, quittent leurs conditions de vie confortables, vont sur le terrain, vont au contact, découvrent la vie du pays où ils sont accrédités.
Ils ont des petits avantages quand même, ils ne payent pas de contraventions.
De plus en plus, ils les payent, parce que les pays deviennent de plus en plus sourcilleux à cet égard, et nous-mêmes, nous donnons des consignes pour que les diplomates payent leurs contraventions, sauf quand elles sont manifestement injustifiées.
Diplomate, est-ce un métier à risque ?
Parfois, j'ai malheureusement perdu des collègues. Je pense à Philippe Bernard, notre ambassadeur, à ce qui était à l'époque le Zaïr, à Kinshasa, que j'avais bien connu, qui a été tué d'une balle dans la tête parce qu'il regardait par la fenêtre, il y avait des troubles dans la rue, il a eu le tort de regarder au mauvais moment. Il a été tué sur le coup.
Et plus récemment ?
Plus récemment, j'ai des collègues qui ont pris des risques, parfois assez sérieux. Je pense à notre ambassadeur au Tchad, qui m'avait appelé quand j'étais directeur d'Afrique, et il m'avait dit « Mon vieux, je te parle, je suis sous la table parce que ça tire tout autour de la résidence ». C'est au moment où une colonne de rebelles essayait de s'emparer de N'Djamena.
Oui, c'était en 2008 et ce jour-là, oui. Je crois que l'ambassadeur de Chine a été sauvé par les soldats français, non ?
Exact, oui. Il nous en a été très reconnaissant. Il a dit, c'est dans ce genre de circonstances qu'on reconnaît les vrais amis.
Beaucoup reprochent aux ambassadeurs leur langue de bois. Vous écrivez que quand vous étiez ambassadeur à Addis Abeba en 2005, lors d'une répression féroce des opposants, vous avez vu des militaires tirer à travers des cabanes de torchis. Pourquoi vous ne l'avez pas dit publiquement ?
Oui, alors d'abord, je ne les ai pas vus directement, j'entendais le bruit des rafales, c'était pas loin de l'ambassade, mais des témoins de ligne de foi m'ont rapporté ce qui se passait. Je ne l'ai pas dit publiquement à ce moment-là parce que nous avons pensé, mes collègues et moi à l'époque, que le plus important était d'essayer d'œuvrer à une reprise du dialogue entre gouvernement et forces de sécurité d'un côté et opposition de l'autre. Et donc faire des déclarations publiques n'aurait servi qu'à jeter de l'huile sur le feu.
Pour rapprocher les opposants de Meles Zenawi, vous avez utilisé une ruse, vous êtes transformé en choriste, c'est ça ?
J'étais déjà choriste. J'avais fait du chant choral avant quand j'étais en France avec la chorale de mon village. J'avais eu l'occasion de chanter dans une prison à Fleury-Mérogis. Et donc j'ai eu l'idée de faire la même chose. J'ai demandé l'autorisation pour notre chorale d'aller chanter à la prison de Kaliti. Ce n'était pas vraiment une ruse. C'était d'abord un geste humanitaire. Mais c'est vrai que je savais que les chefs de l'opposition étaient détenus à Kaliti. Et donc c'était une façon de les approcher.
Quel est votre meilleur souvenir de l'Éthiopie ?
Il y en a beaucoup. Le meilleur souvenir, c'est ce que je dis à la fin du livre, c'est un coup de fil d'une amie qui m'a téléphoné pour me dire que dans l'hôpital obstétrical que j'avais aidé à faire redémarrer, étaient nés des triplés et un de ces triplés a reçu mon nom. C'est une petite Stéphanie que j'ai eu l'occasion de tenir dans mes bras quelques mois plus tard.
Pendant la crise post-électorale de Côte d'Ivoire début 2011, vous étiez le directeur Afrique au Quai d'Orsay et vous dites qu'une multinationale du cacao vous a demandé de régler la crise au plus vite. Pourquoi ?
Non, c'est pas exactement cela. Il y a eu une réunion qui s'est tenue à Bercy et avec les principales entreprises françaises opérant en Côte d'Ivoire et qui toutes nous ont dit « Nous soutenons votre action, il faut défendre la démocratie. Aider à faire en sorte que le président légitimement élu accède au pouvoir, Alassane Ouattara. » Mais c'est vrai que certaines entreprises, notamment cette entreprise de cacao, nous ont dit « Attention, si la crise dure trop longtemps, ça risque d'avoir des conséquences très graves, à la fois pour les Ivoiriens qui travaillent pour nous, pour les paysans, pour les ouvriers et aussi pour le travail pour l'industrie du chocolat en France. » Et nous sommes obligés de licencier sans doute des milliers de personnes. Donc, il fallait agir dans le bon sens, mais il fallait essayer d'agir vite.
Et est-ce la raison pour laquelle vous avez agi si vite entre mars et avril 2011 ?
Ce n'est pas la raison principale, mais disons que c'était une incitation supplémentaire.
Cette multinationale était française, hein ?
C'était une société française, oui.
Il y avait des emplois français en jeu, hein, c'est ça ?
Absolument.
Toujours à l'époque où vous dirigiez le département Afrique du Quai d'Orsay, l'un de vos collaborateurs, Laurent Bigot, vous a conseillé de recevoir deux opposants, le Sénégalais Macky Sall et le Nigérien Mahamadou Issoufou. Est-ce que vous les avez reçus ?
Oui, bien sûr. Il faut toujours recevoir les opposants et il était légitime de les recevoir au Quai d'Orsay.
Et quand vous les avez reçus, vous vous êtes dit peut-être un jour seront-ils présidents ?
Bon, c'est possible, oui, je me suis dit ça. Vous savez, je pensais à une histoire qui est arrivée à un de mes collègues du temps de la dictature en Argentine. Il y avait un avocat obscur, inconnu, qui avait demandé d'être reçu au Quai d'Orsay. Le directeur n'avait pas le temps, le sous-directeur n'avait pas le temps. Et c'est mon collègue, mon jeune collègue rédacteur qui l'avait reçu. L'avocat en question s'appelait Raoul Alfonsine.
Et il est devenu président de l'Argentine.
Donc il ne faut pas insulter l'avenir, bien sûr qu'il faut garder des contacts avec les opposants.
Et quelques mois plus tard, ce même diplomate hein, qui vous avait conseillé de recevoir Macky Sall et Mahamadou Issoufou.
Et Mahamadou Issoufou, oui.
Laurent Bigot, donc, a été poussé vers la sortie. Est-ce que vous regrettez son départ du Quai d'Orsay ?
Je le regrette pour le Quai d'Orsay. Je ne sais pas si je le regrette pour lui, parce qu'il est très heureux là où il est. Il fait du coaching. Je pense que pour le Quai d'Orsay, pour la diplomatie française, son départ a été une perte.
Voulez-vous dire qu'il y a trop de conformisme dans une grande administration comme le Quai d'Orsay ?
Ça peut arriver, oui. Je crois que dans toute hiérarchie, publique comme privée, les responsables n'aiment pas toujours entendre des choses désagréables ou des opinions divergentes.
Vous racontez qu'un ministre coléreux a voulu vous virer. Par chance, il est parti avant et depuis, vous vous êtes réconciliés, vous êtes devenus bons amis. Alors, on sait entre les lignes qu'il s'agit de Bernard Kouchner. Et plus loin, vous écrivez qu'un autre ministre des Affaires étrangères, alors lui, il gouvernait par la terreur, au dire de ceux-là même qui étaient politiquement proches de lui. Ce ministre est-il devenu aussi Premier ministre ?
Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Mais non, il a été Premier ministre, effectivement.
Et il a inspiré une bande dessinée.
Ah non, c'est pas lui.
Donc c'est Alain Juppé.
Mais non plus. Non, mais on peut se livrer au petit jeu des devinettes.
Vous nous direz pas qui c'est ?
Je vous dirai pas qui c'est. Mais je pense que ceux qui l'ont approché et qui lisent le livre le deviendront entre les lignes. C'est par ailleurs quelqu'un de remarquablement intelligent.
À Genève, en 1991, vous avez été à la manœuvre avec le magistrat français Louis Joinet et l'avocat américain Reed Brody pour la création du groupe de travail sur la détention arbitraire. Est-ce que tous les régimes qui ont voté pour ce groupe de travail avaient conscience que cela pourrait ouvrir la porte de leur propre prison ?
Ils y ont certainement pensé. Mais je pense qu'ils se sont dit que le coût politique d'une opposition à cette création serait supérieur au risque qu'ils encouraient en acceptant de laisser agir ce groupe. Il y avait un courant assez puissant pour la création de ce groupe. Le refuser, c'était risquer d'être tout de suite désigné du doigt à l'époque du grand dégel et donc à une époque où les droits de l'homme avaient vraiment le vent en poupe. Donc, pour un pays s'opposer à cette création, c'était politiquement risqué. En revanche, accepter la création du groupe et encourir le risque que le groupe vienne enquêter à l'intérieur du pays considéré était un risque relativement limité quand même. Et ça marchait. Et ce groupe a sauvé des tas de gens dans les années qui ont suivi, retrouvé des tas de gens qui croupissaient dans des culs de basse fosse, et parfois le groupe a réussi à les faire libérer.
Alors c'est grâce à ce groupe de travail de Genève qu'a été libéré il y a 5 ans le français Michel Thierry Atangana qui était en prison au Cameroun depuis 17 ans. Est-ce que quand vous repensez à cet épisode de votre carrière, vous vous dites que ça vaut le coup d'être diplomate ?
Ah oui, combien ? Se dire que grâce à la modeste action qu'on a menée, des gens sont en liberté ou des gens sont en vie, parce qu'on a aussi l'occasion de sauver des vies humaines, ça a été le cas en Éthiopie, avec cet hôpital, mais aussi en d'autres occasions, ça m'est arrivé aussi de mener une belle action humanitaire en Égypte, on se dit qu'on ne perd pas son temps.
Stéphane Gompert, merci.